DW. Le journal. Carole Assignon.
Il est 17h en temps universel, 19h en Allemagne. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024. Dans l'actualité ce soir, le Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, qui se présente comme un panafricaniste de gauche et le garant d'une démocratie renforcée, dit aussi vouloir travailler à faire revenir au sein de la CEDEAO les pays de l'AES. Nous verrons de quelle marge de manœuvre il dispose. Au Togo, le report des élections législatives et régionales sur fond de tensions liées à l'adoption d'une nouvelle constitution ne passe toujours pas auprès de l'opposition. Réaction à suivre. Et plus on tentera d'en savoir plus sur le remodelage de l'armée allemande et les projets de réarmement de l'Allemagne sur fond de guerre en Ukraine et alors que l'OTAN célèbre ses 75 ans d'existence. Voilà pour le programme, mais avant de développer tous ces thèmes, c'est d'abord le Flash Info avec Kosivi Tiassou.
Bonsoir Carole Assignon, bonsoir à toutes et à tous. Après avoir reconnu en 2021 les responsabilités de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda, le président français Emmanuel Macron a fait ce jeudi un pas supplémentaire à l'occasion de la commémoration des 30 ans marquant le génocide. Il a estimé que Paris aurait pu arrêter les massacres, mais n'en a pas eu la volonté. Le président français est invité par son homologue rwandais Paul Kagame aux commémorations de dimanche, ne s'y rendra pas et sera représenté par son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et le secrétaire d'État chargé de la mer Hervé Berville, né au Rwanda. Mais il s'exprimera dimanche par une vidéo selon l'Élysée à ce sujet. Les Nations Unies appellent le monde à ne pas oublier le calvaire de millions de Birmans. Alors que le conflit dans le pays continue son escalade et que les besoins humanitaires s'intensifient, et avec la mousson qui approche, le temps presse pour la population birmane, a insisté devant le Conseil de sécurité Lisa Doctsen au nom du chef du bureau humanitaire de l'ONU. Selon les Nations Unies, le pays compte 2 800 000 personnes déplacées. 90% d'entre elles sont déplacées depuis le coup d'État militaire de 2021. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis l'intensification des combats l'automne dernier dans le nord du pays entre l'armée et des combattants de minorités ethniques. Le président américain Joe Biden a appelé aujourd'hui à maintenir l'engagement sacré des États-Unis dans l'OTAN. Ses propos surviennent sur fond de critiques récurrentes de son rival républicain Donald Trump contre l'Alliance de défense transatlantique. L'OTAN est la plus grande alliance militaire qui ait jamais existé, a déclaré le président américain, qui briguera en novembre prochain un nouveau mandat. Face à lui, il retrouvera Donald Trump. Par ailleurs, le président américain, qui devrait appeler ce jeudi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, fait face à une pression grandissante pour conditionner l'aide américaine à Israël. Cette pression sur Joe Biden s'exerce jusque dans les cercles les plus intimes à travers son épouse, selon ses proches. Le président américain ne cache pas sa frustration envers le premier ministre israélien, d'après les médias américains. En Ukraine, un habitant de Kramatorsk, dans l'est du pays, a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir guidé une frappe russe sur un restaurant de la ville, a annoncé le parquet général ukrainien. La frappe avait fait 13 morts en juin 2023. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a été recruté par la Russie et a été reconnu coupable de haute trahison, selon toujours le parquet. Et enfin, à Bruxelles, la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, est dans la tourmente. Plusieurs commissaires européens et eurodéputés mettent en doute l'impartialité d'une nomination à un haut poste de l'exécutif de l'UE qu'elle a validé. Ursula von der Leyen devra s'expliquer lors d'un débat au Parlement la semaine prochaine à ce sujet. Candidate à sa propre succession, la présidente de la Commission est visée en pleine campagne électorale à 2 mois des élections européennes début juin. L'affaire concerne la nomination le 30 janvier par la Commission européenne d'un émissaire chargé des petites et moyennes entreprises, un poste de conseiller hors classe hautement rémunéré. Le poste a été attribué à l'eurodéputé allemand du Parti populaire européen Markus Pieper.
DW.
Et l'actualité au Sénégal pour ouvrir cette édition, c'est sous le signe de la sobriété que le pays a célébré aujourd'hui le 104e anniversaire de son accession à l'indépendance, deux jours après la prestation de serment du 5e président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a donné hier les futures orientations de son mandat lors de son premier discours à la nation. Il a notamment été question de création d'emplois, de renforcement de la démocratie, de lutte contre la corruption et d'audit des compagnies minières. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et celui qui est désormais son premier ministre Ousmane Sonko se mettent donc progressivement à la tâche après avoir préparé pendant des années leur camp à la prise du pouvoir. Lors de son premier discours officiel, Bassirou Diomaye Faye, qui se dit panafricaniste de gauche, s'est présenté comme l'homme du changement systémique, mais aussi le garant d'une démocratie renforcée. Il dit aussi vouloir travailler à faire revenir au sein de la CEDEAO les trois pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, qui parlent également de panafricanisme et de souveraineté. Étienne Gatanazi.
Un Sénégal juste et prospère dans une Afrique en progrès, c'est l'engagement pris par Bassirou Diomaye Faye qui a promis de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger. Il a par exemple exprimé son souhait de remettre sur la table les contrats pétroliers et gaziers ainsi que les accords de pêche. Autre souhait du nouveau président, quitter le franc CFA, rééquilibrer les partenariats internationaux et travailler au retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Un objectif qui n'est pas impossible à atteindre selon le politologue et homme politique sénégalais Doudou Sidibé.
Le président Bassirou Diomaye Faye, avec la diplomatie, toutes les bonnes relations qu'il sera capable de construire, pourra les ramener dans la communauté. Ces pays devraient s'entendre avec les autres et rester dans cette communauté. Peut-être que ce serait plus facile si aussi ces pays-là allaient vers une transition démocratique, d'organiser des élections, faire revenir ces pays-là dans la démocratie.
L'annonce du retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO suscite en effet toujours des inquiétudes, notamment en ce qui concerne par exemple la circulation des biens et des personnes. Même si, comme les dirigeants des pays de l'AES, Bassirou Diomaye Faye défend des principes panafricanistes, le lanceur d'alerte et panafricaniste Jean-Jacques Lumumba est plutôt sceptique quant à sa marge de manœuvre pour faire revenir ces pays sur leurs décisions.
Le Sénégal est un pays, oui, panafricain, démocratique, mais les pays aujourd'hui de l'AES sont des pays qu'on ne peut pas considérer comme des pays démocratiques parce que ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir et je pense que dans ces pays-là, la démocratie est un peu en berne. La marge de manœuvre, elle est un peu réduite et elle est un peu difficile en ce moment, mais qu'à cela ne tienne, tout est possible en politique.
Jean-Jacques Lumumba estime par ailleurs que le panafricanisme que prône le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye n'est pas forcément celui des dirigeants de l'AES. Même si les militaires mettent en avant la lutte contre le terrorisme, il est, dit-il, important de laisser la démocratie s'exprimer dans ces pays.
Les explications d'Étienne Gatanazi. On vous en parlait dans nos précédentes éditions. Le gouvernement togolais a reporté à une date non précisée les élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril, dont la campagne électorale devait débuter ce jeudi 4 avril. Officiellement, ce report est la réponse à une demande du bureau de l'Assemblée nationale togolaise qui a souhaité disposer de quelques jours pour engager des consultations suite à une demande de relecture de la nouvelle constitution faite par le président de la République. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile s'opposent toutefois à l'idée d'une nouvelle constitution et sont déconcertés par le report des élections. De Lomé, les explications de Noël Tadeyan, notre correspondant au Togo.
Le changement de constitution, sa relecture et le report des élections législatives et régionales, initialement prévues pour le 20 avril, ne sont pas du goût de l'opposition et de la société civile togolaise. David Dosset, du Front Citoyen Togo Debout, dit clairement non à une nouvelle constitution.
Nous disons que le Front Citoyen Togo Debout est opposé à la relecture de la constitution en vue de son adoption par le Parlement. Et le Front Citoyen Togo Debout demande purement et simplement l'annulation de ce projet de nouvelle constitution pour notre pays.
Le député Jerry Tama, du Nouvel Engagement togolais, va dans le même sens. Selon lui, c'est la nouvelle Assemblée nationale issue des prochaines élections législatives qui devra travailler sur la question.
Il serait judicieux, sans aucun doute, de laisser à la prochaine législature éventuellement l'initiative de cette révision constitutionnelle. Si nécessité de révision constitutionnelle, il y a.
Djaritama fait part de sa surprise quant au report des élections et s'interroge sur le bien fondé de cette initiative.
C'est une grosse surprise, c'est beaucoup d'interrogations.
Cette situation risque d'exacerber la tension politique au Togo et le défenseur des droits de l'homme, David Dosset, craint que cela n'aboutisse à une crise.
Le report des élections législatives par un communiqué qu'on sort à quelques heures de l'ouverture de la campagne est un précédent grave et démontre peut-être les difficultés dans lesquelles se trouve le pouvoir togolais. Mais de toute façon, cette procédure visant à adopter une nouvelle constitution viole les dispositions de la constitution et constitue une tentative de renversement du régime constitutionnel du Togo. Ce sont des actes qui sont punis par la loi et nous espérons donc que ce projet ne va pas aboutir et conduire le Togo dans une situation extrêmement difficile de crise sociopolitique.
Le pouvoir en place envisage des concertations en vue de l'adoption de la nouvelle constitution. Mais les partis politiques et organisations de la société civile estiment qu'il est trop tôt pour dire s'ils y participeront ou non. Noël Tadigno à Lomé pour la Deutsche Welle.
Et j'ajoute que plusieurs partis d'opposition togolais, groupes de la société civile, ont appelé ce jeudi à 3 jours de manifestation les 11, 12 et 13 avril prochains pour protester contre ce report des élections législatives et régionales. Et sur les réseaux sociaux, l'annonce du report des élections au Togo fait aussi beaucoup réagir les internautes Wendy Bashi.
Depuis le Bénin, John se demande si les élections auront réellement lieu au Togo voisin. Pour lui, le Togo devrait prendre exemple sur le Sénégal. Toujours au Bénin, Auguste estime que dans un pays qui se respecte, ce n'est pas à 3 semaines du scrutin qu'il faut, je cite, « tripatouiller la Constitution et faire ce genre de propositions ». C'était prévisible avec le changement constitutionnel en nouvelle lecture dans ce Parlement, s'offusque Kouandé qui réagit lui aussi depuis le Bénin. L'internaute précise que, selon lui, le président Fornia Simbe joue avec les nerfs des Togolais. Pour Bazema qui commente sur notre page Facebook depuis le Burkina Faso, il n'y a rien d'étonnant. Ici, en Afrique et surtout au Togo, où le pouvoir se trouve entre les mains d'une seule et unique famille, cette décision est juste faite pour vérifier si l'organe électoral penchera en leur faveur. Sinon, il n'y a rien de surprenant, conclut notre abonné. Salixte, qui réagit depuis le Bénin, ironise en précisant que la démocratie a atteint un autre niveau au Togo. Et enfin, Mada s'attriste du fait que cela se passe de cette manière au Togo. C'est tout simplement triste pour notre Afrique, écrit-il sur Facebook.
Les réactions sur les réseaux sociaux avec Wendy Bashi qu'on retrouve tout à l'heure pour parler du Tchad. En attendant, n'hésitez pas à continuer de réagir à l'actualité, par exemple sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Au Niger, la justice ordonne la libération de 2 proches de l'ancien président Mohamed Bazoum, gardés dans les locaux de la gendarmerie nationale. Une décision saluée comme une victoire du droit et qui réconforte certains acteurs de la société civile. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdoukarim Mahamadou.
Abdrahman Ben Hamay, journaliste travaillant au sein de la présidence sous Mohamed Bazoum et Mohamed Mbarek, cousin de l'épouse de l'ancien président, ont été interpellés il y a de cela 6 mois et accusés d'atteinte à la sécurité de l'État gardés dans les locaux de la gendarmerie nationale pour les besoins de l'enquête. Ils n'ont jamais été présentés à un juge. L'un de leurs avocats a donc saisi le juge de référé pour constater la violation de leurs droits et demander leur libération. Une requête à laquelle le juge a accédé ce mardi. Malgré cette ordonnance exécutoire avec effet immédiat, Abdrahman Ben Hamay et Mohamed Mbarak ne sont toujours pas libres, ce que dénonce Maître Ibrahim Jibo, leur avocat.
Nous ne sommes pas encore libérés, mais nous espérons quand même qu'ils le seront, parce que notre conviction c'est que les autorités en place, ce sont des autorités qui sont là pour garantir le droit et les libertés des citoyens. Nos clients en font partie, et donc si le juge dit que leurs droits et leurs libertés sont violés et qu'ils ordonnent la cessation. Naturellement, nous espérons que les autorités vont s'exécuter.
au lendemain de leur interpellation et à l'annonce du scénario de la tentative d'exfiltration du président Mohamed Bazoum, beaucoup de citoyens étaient sceptiques quant à la possibilité d'une telle opération. Souley Oumarou, président du Forum citoyen pour la République, salue ce qu'il qualifie d'indépendance de la justice.
Cette ordonnance réconforte notamment les acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme. Ça présume en tout cas d'une justice nigérienne qui se veut indépendante. Ça confirme quand même que nous sommes dans un état de droit. Ça donne espoir pour les luttes à venir.
Abdrahmane Ben Hamay et Mohamed Mbarak devront donc patienter avant de recouvrer la liberté. Abdoukari Mahamadou Aniamé pour la Deutsche Welle.
Et en Niger toujours, les autorités militaires ont convoqué hier l'ambassadeur d'Algérie à Niamey pour protester contre le caractère violent des opérations de refoulement de milliers de migrants ouest-africains par l'Algérie. Selon les autorités de Niamey, Alger a, je cite, intensifié depuis quelques jours ses opérations de rapatriement et de refoulement de migrants subsahariens en situation irrégulière vers le Niger. Des vastes opérations de RAF policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamanrasset, dans le sud d'Algérie, où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens. C'est ce qu'indique le gouvernement du Niger. Le Rwanda se prépare à commémorer les 30 ans du génocide de 1994. Les célébrations officielles doivent débuter le 7 avril, jour des premiers massacres qui ont fait en tout officiellement 800 000 morts, majoritairement dans la minorité Tutsi, mais aussi au sein des Hutus modérés. Alors depuis, le pays mène un travail de réconciliation et de justice, Nicolas Angerer.
Trois décennies après les atrocités commises durant le génocide au Rwanda, le travail de mémoire continue, et cela passe notamment par la justice. Justice pour les victimes du génocide et leurs proches, avec notamment la création, en 2002, de tribunaux communautaires, les gachacha, où ces derniers pouvaient entendre les aveux des bourreaux. Mais si la justice a joué un rôle majeur en condamnant des génocidaires, des centaines de personnes suspectées d'avoir participé au génocide seraient toutefois toujours en liberté, notamment dans les pays voisins comme l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Concernant la RDC, le sujet est d'ailleurs source de tensions et a connu un vif regain depuis l'offensive du M23, une rébellion majoritairement Tutsi, fin 2021 dans l'est du pays. Kinshasa ainsi que l'ONU, les États-Unis et plusieurs pays occidentaux accuse en effet le Rwanda de soutenir ses rebelles. Kigali, de son côté, nie toute implication et accuse la RDC de soutenir les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe majoritairement Hutu, créé par de présumés génocidaires. Si la question des anciens génocidaires reste délicate entre Kigali et Kinshasa, dans d'autres pays, des fugitifs ont été extradés, notamment des États-Unis. La France, qui entretenait des relations étroites avec le régime Hutu quand le génocide a commencé, n'a pour sa part extradé aucun présumé génocidaire, mais en a condamné une demi-douzaine. En amont du 30e anniversaire du début des massacres, le président français Emmanuel Macron a estimé ce jeudi que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté. Pour ces commémorations, comme chaque année, le président rwandais Paul Kagame, chef du Front patriotique rwandais qui a renversé le régime génocidaire Hutu en juillet 1994 et est depuis à la tête du pays, allumera une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali. Cette cérémonie marquera le début de la semaine d'hommage durant laquelle le pays tournera au ralenti. La musique ne sera pas autorisée dans les lieux publics ni à la radio. Et seuls les événements culturels liés aux commémorations seront autorisés.
Et j'ajoute que plusieurs associations des droits humains ont dénoncé aujourd'hui les obstacles persistants des autorités françaises dans les procédures judiciaires visant les responsabilités présumées de militaires et d'anciens responsables français à l'époque du génocide au Rwanda et fustigent un tabou. La Fédération internationale pour les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, l'Association Survie et l'Observatoire des droits de l'homme au Rwanda étaient représentés à une conférence à Paris à ce sujet. On n'offenserait probablement pas les Tchadiens ou les Hongrois si l'on disait que beaucoup d'entre eux ne trouveraient pas si facilement l'emplacement géographique de leur pays réciproque sur la carte du monde. Ce n'est pas étonnant puisque la Hongrie, plutôt petit pays en Europe centrale, et le Tchad, un état sahélien immense mais beaucoup moins peuplé, n'ont jusqu'à présent que peu de relations bilatérales. La Hongrie n'a même pas de mission diplomatique au Tchad et c'est pareil dans l'autre sens. Et pourtant, c'est le pays de Viktor Orban qui veut aider le Tchad à se stabiliser. Kossi Vitiassou.
Depuis l'automne dernier, les deux pays ont décidé d'intensifier leurs relations bilatérales. La Hongrie veut envoyer 200 soldats au Tchad, ainsi que de l'aide au développement et humanitaire. Au début de l'année, une organisation étatique hongroise a ouvert son premier bureau Afrique à N'Djamena, au Tchad. En octobre dernier, le ministre hongrois de la Défense, Christophe Salé Bobrovnitsky, a salué le Tchad comme le seul état stable de la région et a mis en garde contre les conséquences d'une déstabilisation. Si la mission civile a le potentiel d'apporter une contribution significative au pays, celle militaire soulève cependant beaucoup de questions, estime Andreas Rix, chercheur auprès du Conseil allemand des relations extérieures.
Je ne pense pas que quelqu'un puisse de façon réaliste s'attendre à ce qu'avec 200 hommes, il soit possible de changer quoi que ce soit dans un pays de 1,2 million de kilomètres carrés.
La situation politique s'est encore détériorée depuis le meurtre d'un homme politique de l'opposition il y a 2 semaines. Les observateurs craignent que le président par intérim, Mahmoud Déby, ne transforme le Tchad en une dictature. Jusqu'à présent, Mahmoud Déby, contrairement aux putschistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso, est considéré comme un allié fidèle de l'Occident, y compris de l'ancienne puissance coloniale, la France. Le Tchad reste néanmoins un pays central dans les intérêts géopolitiques de Paris, de Budapest et de Bruxelles, estime Ulf Lessing, responsable des projets Sahel à la fondation allemande Konrad Adenauer.
Alors que les mêmes pays comme la France sont très critiques vis-à-vis du Mali, du Burkina Faso et du Niger, au sujet des critiques formulées à l'encontre des gouvernements militaires, vous n'entendrez rien concernant le Tchad.
Pour le politologue tchadien Evariste Ngarlem Toldé, la Hongrie avec cette mission n'a en tête que ses propres intérêts.
La présence hongroise au Tchad s'explique simplement par la volonté de la Hongrie de rejeter les réfugiés que lui impose l'Union européenne.
Quelques formalités bilatérales font encore obstacle au démarrage de la mission hongroise. On ne sait donc pas si l'opération débutera avant ou après le scrutin du 6 mai prochain.
Les explications de Kosivitiasso. On continue de parler du Tchad. L'élection présidentielle aura lieu le 6 mai prochain dans le pays. Ce scrutin mettra fin à une transition militaire qui a duré 3 ans. Ce mardi 3 avril, l'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, en a profité pour rappeler que la campagne électorale commence le 14 avril, conformément au chronogramme établi. Par conséquent, l'ANGE exige, en attendant cette date, le retrait de toutes les affiches et portraits de campagne sur l'ensemble du territoire. Elle demande aux candidats plus de responsabilité et de retenue afin de garantir la transparence et l'équité du scrutin. Et comme promis, on retrouve Wendy Bachy car le sujet fait réagir sur les réseaux sociaux. Wendy.
Pour Sorwal qui commande depuis le Tchad, il faut que les forces de l'ordre procèdent à l'enlèvement de toutes les affiches des candidats si les délais fixés par l'Agence nationale de gestion des élections ne sont pas respectés. En parlant des élections, Alif explique comment, au Tchad, ils attendent impatiemment que chaque parti politique puisse détailler point par point son programme politique et que chaque candidat puisse faire la déclaration de son patrimoine. Dieudonné, qui s'exprime depuis Yaoundé au Cameroun, espère que les candidats seront rigoureux jusqu'aux élections et qu'ils vont respecter ce qui a été fixé par l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad. Pour Aboubakar, qui commande depuis le Tchad justement, la commission électorale devrait s'adresser directement au président tchadien car, je cite, « il n'y a que ces affiches dans les rues du pays ». Et enfin, Adam, qui commente sur notre page Facebook depuis N'Djamena, estime qu'il ne s'agit pas d'une élection, mais plutôt d'une mascarade. Selon lui, toutes les institutions du pays sont acquises pour Mahamat Déby. Entre le règne du père et celui du fils, ses bonnets blancs et blancs bonnets s'offusquent-ils.
Réaction sur les réseaux sociaux avec Wendy Bachy. Merci Wendy, merci également à tous les auditeurs et internautes pour tous ces commentaires. En bref, à présent en Afrique du Sud, l'ex-présidente du Parlement a été arrêtée et inculpée pour corruption et blanchiment dans le cadre d'une affaire qui survient à moins de 2 mois d'élection cruciale pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Présidente du Parlement depuis 2021, membre du tout-puissant comité exécutif national de l'ANC. passé, Nosivié Mapizane Kouakoula était sous la menace d'une arrestation depuis plus de 2 semaines. Les enquêteurs avaient déjà procédé à une perquisition à son domicile. La Somalie a ordonné aujourd'hui l'expulsion de l'ambassadeur d'Éthiopie. Le gouvernement ordonne également que les représentations éthiopiennes dans les régions du Puntland et du Somaliland ferment d'ici 2 semaines et que leur personnel éthiopien quitte le pays d'ici 1 semaine. La Somalie accuse le gouvernement éthiopien d'interférer ouvertement dans ses affaires intérieures et de violer sa souveraineté.
DW. Le monde à votre portée.
À l'écoute de la DW, il est 19h en Allemagne. L'Allemagne dont l'armée, la Bundeswehr, va se doter d'une nouvelle structure de commandement. L'annonce en a été faite par Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, lors d'une conférence de presse. Ce remodelage de l'armée allemande ainsi que les projets de réarmement affichés par le chancelier Olaf Scholz surviennent sur fond de guerre en Ukraine et alors que l'OTAN célèbre aujourd'hui ses 75 ans d'existence. Les détails avec Bernd Rieger et Sandrine Blanchard.
L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN donc, a vu le jour en 1949, au début de la guerre froide. L'Alliance Atlantique regroupe alors le bloc occidental autour de la puissance nucléaire des États-Unis. En face, le pacte de Varsovie regroupe lui à partir de 1955 les alliés de l'URSS. Matthias Dembinski, chercheur à l'Institut Leibniz pour la recherche sur les conflits et la paix à Francfort.
Pour ce qui est des menaces et de la réaction de l'OTAN, la situation n'a pas tellement changé par rapport à l'époque. La défense collective est de nouveau au cœur de l'Alliance.
Et l'Allemagne dans tout ça? Eh bien, la guerre en Ukraine, qui dure, a convaincu l'Allemagne de renforcer ses forces armées. Olaf Scholz a déclaré en mai 2022 que, je cite, « l'Allemagne aurait bientôt la plus grande armée traditionnelle d'Europe ». En plus de son soutien à l'Ukraine, elle entend renforcer la Bundeswehr, une révolution dans les esprits allemands depuis la Seconde Guerre mondiale qui nécessite de très gros investissements. Aujourd'hui même, Boris Pistorius a reçu son homologue français Sébastien Lecornu, avec lequel il a annoncé un nouveau projet militaire ou industriel entre les deux pays, le MGC, Main Ground Combat System, une sorte de véhicule blindé franco-allemand hyper connecté.
La France est en tête pour les systèmes de combat aérien grâce à ses capacités exceptionnelles dans ce domaine. Et nous, Allemands, dans le système de combat terrestre du futur. En ce qui concerne la production, elle sera répartie à part égale entre les industries des nations concernées.
Boris Pistorius vient en outre d'annoncer une réorganisation de la Bundeswehr. L'armée de terre, l'armée de l'air et la marine continuent d'exister, mais une nouvelle force dédiée au cyberespace et à l'information, le CIR, devient le 4e pilier des forces armées allemandes. Il sera spécialisé dans la cyberguerre, la protection électronique et le renseignement. Un commando de soutien commun aux différentes branches de la Bundeswehr va regrouper l'administration et le volet sanitaire. Le ministre de la Défense réfléchit également à une réintroduction d'une forme de service militaire obligatoire.
Sandrine Blanchard, et puisqu'on parlait de l'OTAN, notez que selon le président américain Joe Biden a donc appelé aujourd'hui à maintenir l'engagement sacré des États-Unis dans l'OTAN sur fond de critiques récurrentes de son rival républicain Donald Trump contre l'Alliance de défense transatlantique. L'OTAN, je cite, est la plus grande alliance militaire qui ait jamais existé. Mais ce n'est pas arrivé par accident et cela n'était pas non plus acquis d'avance. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui donc Joe Biden. En bref, selon l'Organisation internationale pour les migrations, quelques 13 000 migrants haïtiens ont été renvoyés chez eux de force par les États voisins en mars, malgré la situation humanitaire et sécuritaire catastrophique dans leur pays. C'est 46% de plus que le mois précédent, note l'OIM dans un communiqué qui précise que 3 000 d'entre eux ont reçu une assistance humanitaire à leur retour et 1 200 bénéficient d'un soutien psychosocial. Rappelons que Haïti fait pas face à la pauvreté, aux catastrophes naturelles, mais aussi à l'instabilité politique. 17h28 en temps universel, on passe au sport.
DW. Le sport. Fiat Ndaira Gidje.
En football, la 31e journée en Première Ligue en Angleterre se poursuit ce soir. Le FC Chelsea sera confronté à Manchester United. Liverpool joue quant à lui contre Sheffield United. Le choc des extrêmes, Fia Krender Agidje.
Deuxième au classement, Liverpool joue à domicile contre une modeste équipe de Sheffield United, l'équipe la plus mal placée avec seulement 15 points en 29 matchs en Premier League. Sauf en cas de surprise, les Reds sont sur le papier favoris pour dominer leur adversaire. Le manager de Liverpool appelle ses joueurs à jouer chaque match comme si c'était le dernier.
The most important thing is to get through this period is just to ignore.
Ce qui est important pour traverser cette période, c'est simplement d'ignorer le bruit de l'extérieur, parce que cela change et c'est émotionnel. Il n'y a aucune garantie, il y a juste des opportunités. Plus vous voyez clairement d'opportunités, plus vous avez de chances à saisir.
Le FC Chelsea accueille pour sa part Manchester United. En effet, United est en sixième position au classement, une place qui pourrait lui assurer un billet pour la Ligue Europa la saison prochaine. Et pour le rendez-vous de ce soir, Mason Greenwood ne sera pas titularisé, annonce le manager de Manchester United, Erik ten Hag.
He's a fantastic football player, but for it's important first that he.
C'est un joueur de football fantastique. Mais il est important d'abord qu'il soit et qu'il reste en forme, car il a eu 3 blessures. Maintenant, avec Luke Shaw, nous pouvons lui permettre de reprendre très prudemment. C'est notre objectif, le garder en forme. En même temps, l'utiliser pour qu'il puisse apporter sa contribution à l'équipe, comme il l'a fait samedi où il a eu un grand impact.
En lutte avec West Ham, Brighton, Newcastle, Wolverhampton et Bournemouth pour le top 7, Chelsea n'a pas non plus droit à l'erreur ce soir face à Manchester United.